Bonjour, bienvenue dans les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun et qui partage le témoignage de personnes extraordinaires. Et je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs pour le troisième volet de notre série sur l'alcoolisme avec Patrick, dont je rappelle un peu le pédigré quand même. 47 ans, patient expert, abstinent depuis 10 ans. Et il est présent avec nous pour nous raconter son parcours de résilient et sa traversée de la maladie. Car oui, on parle bien de maladie. Il nous raconte sans filtre ses anecdotes et toute son expérience. Bonjour Patrick.
Salut Mel. Bah écoute, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'équipe. Et je suis content d'être là. C'est la troisième.
On commence à être un peu rodé là, légèrement.
Ouais, j'ai pris mes marques, donc c'est cool.
Bon, j'invite aussi à écouter tous nos auditeurs à écouter les podcasts disponibles sur Radio Escapade. Allez écouter ça, c'est super intéressant. Et je vais faire un petit rappel. Dans l'émission précédente, tu as commencé à nous témoigner de ta descente aux enfers, les moments où tu glisses doucement mais sûrement dans cette maladie. Et on va continuer avec toi cette chute. Donc je te propose de revenir en 2008, l'année où Éthanol gagne, ainsi que la solitude. Dans ton parcours, je sais que tu as monté un restaurant semi-gastronomique à Béziers. Je sais que c'est flou pour toi aussi de savoir quand tu tombes exactement dans l'alcoolisme. Mais que ce moment est charnière pour toi, tu nous poses un peu le décor, la carte postale.
Écoute, effectivement, tu mets une belle intro là. 2008, c'est l'année où d'une manière générale, on peut dire que je suis piqué par cette maladie. Et le flou, effectivement, il est entre 2007 et 2008. Je rappelle que 2007, c'est l'année où ma fille naît, ma fille Maëlle. Et il y a une certitude, c'est que 2008, je suis dans l'alcoolisme et je suis tombé dans cette pathologie. Donc, effectivement, l'année 2008 est très, très, très particulière puisque, en fait, je me suis installé dans le sud. Donc, j'ai acheté quelques terres. J'ai validé cette formation qui me permet de fabriquer du vin avec du raisin. Et donc, j'ai les terres, j'ai le matériel pour commencer, j'ai la formation. Et puis, bon, il faut quand même, pour se lancer dans un projet comme ça, il faut de l'argent. Et cet argent, je ne l'ai pas. Je ne suis pas crédible au niveau des banques. Donc, j'ai absolument besoin de travailler. En plus, il faut que je m'occupe de cette petite famille qui s'agrandit. Donc, je me mets sur le marché de l'emploi. Et à l'époque, pour que tout soit rose, je rencontre un mec qui a un projet de fou sur la place de Béziers et qui veut ouvrir un restaurant semi-gastronomique, cuisine traditionnelle, avec du people et sans doute une clientèle un peu huppée. Donc, il y a de l'argent à se faire, un métier intéressant. Et pour moi, ça peut être un bon tremplin dans la région pour me faire connaître.
Voilà. D'accord. Bah, tu accèdes du coup à ce que tu voulais.
Exactement, c'est ça.
C'est ça. Et le challenge est là, ta fille vient de naître, ta famille compte sur toi. Bah, ça doit être dur quand même. Comment tu fais pour tenir le rythme? Parce que ça doit être monter à un resto semi-gastronomique, avoir ça sur les épaules. Ça ne doit pas être facile.
Ouais, alors là, on est dans un départ. Donc un départ, quelle que soit l'activité exercée. D'ailleurs, chez nos auditeurs, là, aujourd'hui, il y a sans doute des gens qui rentrent dans des activités professionnelles comme ça. Et quand tu te lances, forcément, tu dédoubles de rythme, tu t'engages, tu ne sais pas trop où tu vas, c'est nouveau, tu as des responsabilités. Moi, j'avais une petite équipe à mettre en place et à former. J'avais tout à faire. Mais comme on l'a dit dans les émissions précédentes, en fait, j'ai les compétences pour ça. Donc, en fait, c'est plus une question d'investissement perso. Et comme je suis un mec entier, que je ne fais pas semblant et que je m'investis à fond, mais je m'impose un rythme et je m'impose une rigueur, un peu comme celle que mon parcours de vie m'a toujours imposé, que ce soit à l'école, que ce soit à l'école hôtelière, que ce soit au foot. J'ai toujours eu cette rigueur. Et le personnage clé qui m'insuffle ça, le modèle, c'est le père. Et mon père, il est comme ça. Donc, il me transmet ça. Et en fait, j'arrive dans ce resto. Et effectivement, j'y vais tête baissée. Je rentre dedans. Et en plus, je performe. Ça veut dire que j'ai quelque chose qui est fort dans mon activité. Et effectivement, parce que je te vois venir, pour tenir ce rythme-là, il y a un moment où va falloir un pote. Et ce pote-là, c'est Éthanol.
Et oui.
C'est ça dont tu veux qu'on parle.
Et oui, c'est ça que je veux vraiment savoir. C'est que bah, c'est ta descente aux enfers, on est en plein dedans. Et comment tu gères tout ça, quoi ? Comment tu gères ce stress de ce restaurant ?
Bon, bah écoute, ça va très vite, ça va très vite. C'est en quelques mois que tout dérape. Et effectivement, tu commences un petit peu par la fin, mais la conclusion, c'est ça, c'est que c'est un tunnel noir dans lequel je vais sombrer. Mais petit à petit, il y a une mise en route à ça. Et du coup, si on parle de la pathologie, clairement, elle s'installe. Et elle s'installe, donc le décor, c'est que je suis dans un resto, j'ai un bar avec tous les alcools qu'on trouve dans un bar, c'est-à-dire tous les alcools forts. Moi, je suis un amateur de whisky, donc j'ai quelques whisky à ma carte qui me plaisent bien. Je ne vais pas faire de la pub et encore moins pour de l'alcool. Et pareil, j'ai une cave à vin et il se trouve que le challenge de ce resto, c'est que le mec qui a monté ce resto, qui est un mafieux, c'est un magouilleur de première. Et ce mec-là, en fait, il a racheté un stock de je ne sais plus combien de milliers de bouteilles à 1 euro le col.
D'accord.
Donc, pour faciliter ma gestion, en fait, j'ai de toute façon un budget qui est quasiment illimité pour ma production culinaire parce qu'on va gagner de l'argent grâce à l'alcool. Donc c'est super, l'alcool est un allié de force parce qu'il permet la thune et dans le resto. Et en plus de ça, il est à ma dispo puisque je suis le patron du resto. Il ne m'appartient pas, mais c'est moi qui décide de ce qu'on y fait. Du coup, j'ai de l'alcool à volonté et quand on lance le resto, bah, j'ai même ma famille qui viendra à Béziers pour un repas d'inauguration. Et donc, on a du vin, on a de l'alcool, c'est festif. Je rencontre une équipe jeune que je forme. Donc, on boit des coups avant le service. Enfin, tout le monde connaît ce tableau-là. C'est un resto, ouais. C'est convivial, c'est Béziers, c'est le sud, c'est le soleil. On est sur la terrasse, place de la Madeleine. On est bien, quoi. Et on boit des petits verres comme ça régulièrement. Et j'ai quand même une rigueur moi-même avec l'équipe où on boit, mais on boit pas à outrance, on est là pour bosser, quoi. Il y a une image de soi, il faut se respecter, il faut respecter notre métier. Donc on boit de l'alcool, parce que moi le premier j'en veux, mais c'est tranquille. Voilà. Du coup, les jours passent, l'activité se met en route et en fait le resto marche très très bien. Et donc du coup, il y a un moment où on a besoin d'être un peu speed. Et comme je l'ai dit en préambule dans les émissions précédentes, j'ai été sur d'autres toxiques pour la citer, la cocaïne par exemple. Et la cocaïne et le speed que ça peut apporter. Mon expérience perso faisait que c'est pas du tout ce produit-là qui m'intéressait. Par contre, l'alcool, lui, il répondait à mes besoins. Et pour tenir un petit peu ce rythme, je commence à être un peu derrière le comptoir, à payer des coups aux gens, à accepter qu'on boive un coup après le service pour se détendre aussi. Et donc, on a cet alcool-là qui vient faire qui remplit bien le rôle de l'apaisement et de l'excitation qui nous permet à la fois de se mettre dans le speed pour le service et taper dedans et après le service pour se poser en se disant « Ah, on a fait un bon service ». Et la réalité, c'est que cet alcool, il est accessible, il est là tout le temps. Ça veut dire que, en fait, à partir du moment où on arrive le matin, il est dispo. Parce que là, on a encore une temporalité dans ma façon de vivre. J'ai encore un petit peu de temps de repos la nuit. Je dors un petit peu la nuit, mais pas tant que ça. Et l'alcool commence à être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. On perd une temporalité. C'est là où l'alcoolisme clairement s'installe.
Et c'est là où éthanol commence à gagner, en fait, dans cette temporalité.
Oui. Et éthanol, il gagne la temporalité parce qu'il n'en a pas. Et à partir de là, ça va très, très vite. En termes de temps, c'est au bout de quelques mois. Mais je paradoxalement, je vois très bien que je vais au boulot, j'ai l'alcool à dispo. Et là où ça coince, là où normalement, et c'est là où les auditeurs doivent vraiment s'alerter, c'est que à la fin du service, quand je rentre le soir pour me coucher, je suis plein d'alcool parce que dans le quotidien au resto, il y a de l'alcool. Et en fait, ne serait-ce que sur 200 mètres, pour ceux qui connaissent un peu Béziers, là, j'habite dans le quartier où évidemment faut pas habiter. C'est derrière l'ancienne poste, c'est là où t'as toutes les ethnies qui ont pas de thunes en gros. Donc
tu t'es pris donc du coup un petit appartement en dehors de là où t'habites.
Ouais,
donc,
Alors ouais, je le précise exact aux auditeurs. Je m'investis tellement dans ce métier et j'y mets dans ce resto et j'y mets tellement le cœur que en fait, je vais même jusqu'à demander à mon patron de me louer une garçonnière. n'y a pas de tabou. Une garçonnière, en général, pour un mec qui vient de créer une famille, l'intérêt, c'est peut-être d'aller niquer, disons le mot, hein,
Pardon, à tous nos auditeurs.
d'amener une petite à la maison et puis de passer des bons moments. Mm-hmm. Mais moi, c'est pas du tout ça. C'est juste pour pouvoir me poser et dormir.
Te reposer parce qu'en fait, t'es claqué.
C'est ça. Et en fait. Et en fait, pas du tout. Je passe à l'épicerie de nuit et l'épicerie de nuit, je vais acheter de l'alcool en fait.
Donc la pépette que tu ramènes chez toi dans ta garçonnière, c'est une bouteille.
Ouais, c'est ça. J'amène une pépette, c'est des pépettes du coup pour le coup. Ouais. J'en amène plusieurs et en fait, c'est là où ça coince parce que tu peux pas sortir d'une activité pendant une journée de taf où t'as bu et t'as fait 200 mètres, et déjà, il faut que tu rachètes de l'alcool. Et c'est fort, parce qu'en fait, quand on revient en arrière, j'aurais très bien pu prendre de l'alcool du resto. Ouais. Mais pas du tout, en fait. Tu sors, t'es même pas dans cet esprit-là, et clac, t'arrives à l'épicerie de nuit, et en fait, t'as ce besoin d'alcool qui est là.
Qui commence déjà
à
venir.
Et c'est le ressenti physique, et c'est... je commence à mettre le doigt sur le manque. Et donc, en fait, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai tout le temps de l'alcool avec moi.
Il t'apaise cet alcool ?
Alors, c'est important pour les gens qui doivent différencier la pathologie et la consommation, l'addiction, pour faire simple, c'est qu'il y a zéro plaisir. Ouais. J'ai pas du tout le plaisir à boire de l'alcool. Je bois de l'éthanol, je bois du degré sur ma canette. Et comme tout le monde la connaît, je vais pas faire de pub non plus là. Mais voilà, en fait, je vais vite vers cette bière forte dégueulasse qui est de la merde. En plus, il faut vraiment le dire à tout le monde, c'est de la grosse merde là, ces bières là. Et il faut vraiment pas boire ça en fait.
On prend note.
Ouais, non, il faut vraiment pas boire ces trucs là parce que ça détruit le corps, ça détruit tout le système digestif et comme l'alcool s'invite dans toutes nos cellules, ça détruit tout. Et ces alcools là, ils sont bourrés de... Enfin vraiment, il ne faut pas aller là-dessus, ça détruit les gens. Et je ne comprends même pas que ça soit commercialisé en fait. Du coup, t'enlèves la notion de plaisir, il n'y a plus de plaisir, il n'y en aura plus jamais d'ailleurs, il n'y a plus jamais de plaisir chez moi à boire de l'alcool alors que c'était une de mes passions. Et il a deux rôles essentiels, c'est qu'à partir du moment où je dois me bouger, il est source d'énergie. Mmh. Et à partir du moment où je dois m'apaiser et redescendre, il apaise. Et ça, c'est la force de l'éthanol. C'est que, comparé à deux grosses drogues dures que tout le monde connaît aussi, c'est qu'il a le même rôle et les mêmes fonctions que la cocaïne en termes d'excitation et il va avoir la même fonction que l'héroïne. Après, sur les deux produits, je ne vais pas m'étaler sur les deux parce que je les connais très bien, mais je ne les ai jamais consommés et je n'ai pas été addict à ces produits. Enfin, la cocaïne, si, mais l'héroïne, je n'ai jamais touché. Et j'en connais les effets pour avoir, dans mon parcours de soins, rencontré des gens qui étaient addicts à l'héro et pour avoir fréquenté, tout simplement. Mais je n'ai jamais pris d'héroïne. Donc voilà, je reste humble sur ça. Par contre, aujourd'hui, on sait qu'au niveau neurologique, au niveau scientifique, au niveau biologique, on sait qu'on va avoir un état, on va obtenir un état qui va être similaire grâce à l'alcool. D'ailleurs, toutes les addictions toxiques produites, tous les mecs addicts, tous les toxicos vont de toute façon à un moment vers l'alcool parce qu'il permet de faire l'inverse du produit qu'on a pris.
Voilà. Ouais. En fait, il remplit énormément de rôle, éthanol.
Oui, c'est un magicien, éthanol.
C'est ce que je comprends à force de discuter avec toi et qu'on échange là-dessus. C'est vraiment quelque chose que je commence à comprendre. Tu rentres aussi dans la solitude.
Ah ouais, bah écoute, ouais, ça va te perdre. Alors en fait, je m'investis à fond dans le resto. Donc j'ai ma pépette qui vient de naître. La relation avec la mère de ma fille, elle est compliquée parce que de toute façon, ça, c'est un autre sujet important dont on parlera sans doute. Mais du coup, j'ai pas de place. J'ai pas trop de place parce que la petite prend toute la place. Je n'ai pas de place parce que je la prends pas parce que je suis au boulot. Et donc, je suis tout seul dans ma garçonnière. Et effectivement, le mot qui est là et qui va être un des mots qui va me suivre pendant les 10 années à suivre, c'est la solitude.
Oui, voilà. J'ai l'impression, j'ai revu pas mal de notes parce qu'on débriefe souvent ensemble pour préparer les émissions. Et quand j'ai relu toutes les notes que j'ai prises, il y a souvent ce mot-là qui revient. Donc
oui.
je l'ai noté en disant « mais c'est impressionnant ». Le nombre de fois où le mot solitude revient.
Oui, et non seulement il revient, mais c'est un peu à l'image de ma construction familiale, etc. C'est-à-dire que je rappelle aux auditeurs, et allez voir les podcasts, parce que ça commence à être... l'interview
les
commence
infos
à être
commencent
bien
à être fournies,
ouais.
Et c'est bien construit,
et,
oui.
Et effectivement quand je quitte le... Enfin, déjà, je suis le troisième, donc mes parents sont... relativement absent dans leur éducation du quotidien. Mon père travaille à l'étranger, etc. Et puis je quitte tôt le foyer, puisque je quitte, j'ai pas 14 ans quand je quitte pour faire mes études hôtelières, et en fait je reviens pas à la maison. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je te raconterai un petit truc par rapport à mon retour à la maison. Mais je quitte la maison et je suis seul. Je vais dans une région où je connais personne. Je rencontre la mère de ma fille, mais j'ai pas mes amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de travail.
Ça revient souvent dans ta vie, en fait.
Exactement. Et c'est un principe, ça se répète.
C'est redondant, un schéma.
C'est un schéma.
Du coup, ma prochaine question, c'est quoi ta relation, votre relation avec Ethanol, toi et les autres?
Ouais, alors c'est bon. Bah moi, ma relation avec Ethanol, clairement, si on parle d'addiction, on parle de mariage. Et si on parle de mariage, je suis tout le temps avec, en fait. Mmh. Et je suis tout le temps avec. C'est le principe même de l'addiction. Et je suis tellement avec que quand il est pas là, c'est là où arrivent les soucis. Et donc ma relation avec Ethanol, elle est intime. Tout ce que je partage, moi, tout ce que je vis, je le vis avec de l'alcool. Et l'alcool n'est jamais absent. Voilà, il est tout le temps là. Et le regard des autres, je sais maintenant que ça se voyait, que les gens parlaient de problèmes, qu'ils s'interrogeaient. Ils n'osaient pas venir me voir en disant
Patrick, tu picoles beaucoup ou
Ouais, c'est un problème ouais. En fait, on vient pas en mode soutien et on vient pas me voir en me tendant des mains,
ouais, bien sûr.
En me disant ah bah en plus t'es tout seul, t'es dans ta galère, on vient. Mes parents sont jamais venus dans le sud, enfin ils sont venus à ce fameux repas de création de resto, mais je vais pas les voir pendant un moment et en fait
ça durcit cette solitude du coup.
Bah, ça l'agrandit, ça la nourrit même. Ça veut dire que en fait je suis seul et en plus plus je rentre dans ce tunnel, plus je suis dans cette
bien
cascade
sûr.
Et dans cette chute, et plus les gens s'éloignent.
Et, oui.
et ta question, quelle est ma relation, moi et l'alcool, l'alcool et moi et les gens
et les
par
autres.
Rapport à ça, ben en fait, c'est de la distance. Et c'est ça où il faut prévenir nos auditeurs. C'est que, en fait, les gens qui sont autour de vous, il faut en prendre soin. Et un mec ou une nana qui commence à picoler, quelle que soit sa façon de picoler, il faut alerter, il faut oser, il faut en parler. Et à mon sens, avec tous les gens que j'ai rencontrés, et si je parle de moi, les gens qui picolent pour venir penser des mots, le problème, c'est que l'engrenage va très vite. Et,
ouais.
Et c'est ça la relation que j'ai à l'alcool au départ. C'est que c'est un outil qui me permet d'affronter n'importe quelle situation. Et ça, aujourd'hui, il faut alerter, il faut arrêter de consommer de l'alcool pour consommer de l'alcool et prendre l'alcool comme un jouet de festivité ou d'en parler comme si c'était un précurseur de joie ou un précurseur de bien-être. La réalité, c'est que quand il t'attrape, il détruit tout ce que t'as et il t'enlève tout ce que t'as. Et c'est ça la question que tu me poses, c'est quelle est la relation avec les autres?
C'est ça.
Je perds les relations avec les autres. Je vais perdre les relations avec ma famille petit à petit. La famille, celle que j'ai construite, c'est-à-dire la mère de mes de ma fille et du demi-frère qui est présent et qui est plus grand que la mienne. Et les gens autour de moi, tout le monde s'éclate. Au foot, je vois plus les gars parce que je travaille. Dans la région de Pézenas où j'habite, mais j'ai pas de potes, j'ai pas de famille. La mienne de famille, je suis absent. Donc forcément, plus t'es absent, moins on considère que t'es là.
C'est ça.
Et donc en fait, je perds tellement tout que pour arroser tout ça, je pourrais le dire, on en parlera, je pense, à un moment, parce que l'alcool et conduire, c'est une catastrophe. Mais je perds mon permis à un moment. Et bon, c'est un des méandres du quotidien dont on parlera aussi. Mais voilà, je perds encore mon permis de conduire. Et du coup, en plus, je me retrouve comme un galérien.
Isolé,
sans le permis. Et il faut que je solutionne tout ça. Donc
autant... l'alcool et l'éthanol solutionnent, du coup, énormément de choses, quoi. L'excitation, ça donne donc l'excitation pour se remettre en route, ça apaise, ça solutionne tout, ces pansements. Et tout ce que tu viens de dire là, ça... Tu sais que j'aime bien les micro-trottoirs, tu sais que j'aime bien en faire. Et j'aime bien aller dans la rue poser des questions. Et pour les premières émissions, j'avais posé la question pour introduire un peu le sujet. J'avais demandé aux gens dans la rue, c'est quoi pour vous l'alcoolisme ? Et j'étais tombée sur une dame quand je l'avais abordée. On va l'écouter.
Et mis en route. Bonjour. Alors là, je m'appelle Mélanie. Je vais animer une émission radio où je donne la parole à des personnes extraordinaires, un chemin de vie un peu atypique. Et là, je m'interroge sur l'alcoolisme. Ça vous fait rire, du coup ?
On a l'air alcoolique.
Non, pas du tout. Okay.
Voilà, c'est pourquoi on a l'air alcoolique, du coup. Et je suis allée dans la rue poser la question, je me suis dit, mais ça ressemble à quoi un alcoolique ? Tu nous disais tout à l'heure, avec la relation éthanol, toi et les autres. Voilà, je voulais savoir si dans la rue, on pouvait répondre à cette question, ça ressemble à quoi un alcoolique ? C'est parti.
Si mon Tascam veut bien, ouais, il veut bien
marcher. C'est anonyme ?
Oui, c'est anonyme, complètement. Et puis en plus, à la radio, on ne voit pas ton visage. Donc
c'est vrai.
Tu peux balancer, ça, j'ai envie de dire.
À la radio, c'est pas grave.
La question que j'ai envie de me poser, ce qui a suscité ce questionnement, c'est ça ressemble à quoi un alcoolique ?
Genre, à quel stade ? C'est ça le truc.
Ouais.
Parce que un alcoolique, pour moi, c'est quelqu'un qui boit tous les jours et qui peut boire tout seul. Mais après, ça, dans la rue, quand on va dire quelqu'un est alcoolique, c'est qu'il marche pas droit, qu'il a la bière à la main ou autre chose.
Et on va le traiter d'alcoolo.
Et on va le traiter d'alcoolo. Mais après, l'alcoolisme, ça commence très tôt, et facilement. Donc,
déjà, tu guéris avec de l'alcool, tes soucis, quoi. Déjà, là, pour moi, c'est l'alcoolisme. Ouais.
D'accord. Mais on pourrait le reconnaître dans la rue ?
Non. Si c'est un stade élevé, oui.
Mais sinon...
Si par exemple moi, on peut pas deviner que je suis alcoolique, quoi.
Okay.
On m'a dit que c'était de l'alcoolisme de boire tous les jours et de boire toute seule. Bon, moi, je me bois ma bière tous les soirs toute seule. Mais ça s'est calmé maintenant. Mais avant, pendant une période, j'ai eu cette période-là. Et...
D'accord.
Alors, je suis très jeune, mais ça va vite en fait.
Et ça te procurait quoi ?
C'était le moment de détente. C'est comme quelqu'un qui va fumer sa cigarette. Moi, c'était ma bière en fin de journée, que ça fait du bien.
Ouais.
Et du coup, sauf que si c'est tous les jours et que c'est dès qu'on va pas bien ou dès qu'on a besoin de se détendre, c'est de l'alcoolisme, quoi. C'est une dépendance, donc c'est de l'alcoolisme. C'est comme la clope, c'est comme les réseaux sociaux, c'est la même chose.
Ok. Ça ressemble à quoi un alcoolique, du coup ?
Je sais pas, moi. J'en sais rien. Ça ressemble à rien, ça. À quoi ça peut ressembler ?
C'est un moment précis où on peut deviner que quelqu'un est alcoolique.
Et c'est quel moment précis où on peut le deviner ?
Les signes de l'alcoolisme, quelqu'un qui marche pas droit, qui se casse la figure, etc. etc.
Mais sinon,
ça ne se voit pas. C'est quelque chose d'invisible.
C'est quelque chose d'invisible,
tout à fait.
Pour vous ?
Je vois pas. Je passe pas mon temps à regarder ce genre de problème.
Je comprends. Donc en fait, on les voit pas.
Non. Personnellement, moi, je trouve que ça se voit pas.
Mm-hmm. C'est vrai que je regarde jamais ça.
Ok.
Bon, pourtant, j'habite dans le centre de Montpellier.
Et oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, mesdames.
Voilà. Au revoir.
Au revoir.
Je pense que j'aurais pas de profil prédéfini pour un. À part probablement un alcoolisme très sévère qui se verrait du coup sur des yeux jaunes suite à une attaque au foie ou quoi. Mais a priori, avant ce stade, à moins de connaître vraiment les fréquentations en bar, Je pense qu'il y a aussi l'alcoolisme festif. Je peux retrouver à la fac de personnes qui vont boire beaucoup moins souvent que des adultes qui sont considérés alcooliques médicalement, mais qui pour autant, vu qu'ils vont, on va dire, déborder sur leur consommation, même si c'est qu'une fois dans la semaine, de manière répétitive sur la semaine, ça va être considéré aussi comme de l'alcoolisme. Je sais pas, je pense pas que j'aurai de profil physique à donner, mais je pense que si pour passer une bonne soirée ou pour conclure une journée, il faut absolument de l'alcool, et qu'en plus on a l'impression de mal voir les gens s'ils concluent pas leur journée de cette manière, oui, là je pourrais dire c'est un profil qui est enclin à devenir alcoolique.
Ok, mais dans la rue on le reconnaîtrait pas?
Dans la rue, je pense pas que je le reconnaîtrais, non.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci. Merci à vous.
Du coup, je me pose la question, est-ce que à quoi ça ressemble un alcoolique? Vous savez, vous?
Je pense que quand ça commence à se voir, c'est au moment où justement on commence à avoir une certaine route avec l'alcool et qui parfois... physiquement peut donner des traces sur le corps, et là oui on peut dire que on peut ressembler à un alcoolique, mais le problème c'est que en fait ça c'est déjà au moment où la route a été amorcée depuis très longtemps. Justement l'alcoolique on ne peut pas dans la rue le reconnaître ou dans une vie au quotidien. Quand je dis dans la rue, ça peut être dans notre famille, ça peut être autour de nous, et malheureusement le problème, c'est qu'on s'en rend compte bien souvent trop tard quand ça arrive.
On le rencontre bien souvent trop tard quand ça arrive. On ne le reconnaît pas, même dans notre famille. T'as envie de réagir un peu à ce micro-trottoir, toi, Patrick ?
Alors, moi, j'adore le micro-trottoir parce que par nature, j'aime les gens et j'aime les écouter. J'aime à écouter l'autre et comprendre... ce qu'il veut, ce qui l'intéresse, ce qui l'anime, etc. Puisque de par mon métier, de toute façon, rendre service aux gens à travers un repas, une nuit d'hôtel, une prestation d'activité, de toute façon, c'est dans mon ADN. Et cette prestation à l'autre, ce service à l'autre, c'est ce qui va nourrir ma vie encore par la suite, après le méandre de la maladie. Et du coup, j'adore ce micro-trottoir, il est super riche et il y a plein de choses intéressantes. J'invite sérieusement à réécouter cette petite nana là que tu interviews au départ.
Oui, la première.
Elle est extrêmement lucide et elle a des propos qui sont bons. Et je valide particulièrement cette petite nana parce que elle est dans de la prévention, c'est-à-dire que elle est dans ce que les auditeurs doivent se dire honnêtement. Et quand vous avez un proche qui justement autour de vous va boire sa petite bière tout seul le soir. Et que s'il ne peut pas s'en séparer, c'est que c'est vraiment désamorce, à mon avis, sur des terrains. Mais je passe directement à cet homme qui conclut, et je fais le lien avec moi, c'est que quand je suis à la fin de ce restaurant, sur cette expérience de vie au resto de Béziers, en fait, la route avec l'alcool, la mienne, moi, comme ça, rapidement, j'ai une trentaine d'années, et je suis déjà en lien avec l'alcool depuis l'âge de 12 ans, donc ça fait déjà 18 ans que je suis en chemin avec l'alcool, et en plus, j'en ai fait un allié, un collègue de travail, une richesse de compétences pour mon métier. J'y prends plaisir, je m'y connais, je suis jury sur des concours œnologiques et de vin. Enfin bref, il a raison, la route est longue avant d'en être là. Et ensuite, je suis effrayé par cette femme qui habite Montpellier, effrayé,
oui.
qui est complètement... dans un déni total sociétal d'activité. Aujourd'hui, je rappelle quand même facilement aux auditeurs, j'ai pas besoin de nommer des sources. Vous allez sur votre smartphone, là, vous tapez Google, vous tapez nombre d'alcooliques en soins aujourd'hui, vous verrez, aujourd'hui, c'est 1 500 000 personnes d'après l'OMS. Enfin, je veux dire, cette femme, il faut qu'elle ouvre les yeux parce que ça veut dire que quelque part, on a tous notre petit piccolo dans notre famille et pas loin en tout cas. Donc, je ne sais pas dans quelle famille elle vit, elle, mais elle est dans un autre monde. Et en plus, dans sa voix, elle le porte. Et je suis effrayé de voir ça.
Invisible. Elle emploie le mot invisible. Enfin, c'est
oui,
invisible.
C'est ça. Alors, je te vois venir parce que je te connais et qu'on a échangé là-dessus. Elle est... les gens ne sont pas invisibles dans les yeux de cette femme. C'est elle, elle ne regarde pas la société. Donc en fait, elle est aveugle. Mais ce n'est pas les gens qui sont invisibles, c'est elle qui est aveugle. Par contre, un alcoolique devient invisible.
C'est ça.
Il devient invisible, pourquoi ? Parce que les proches ne les regardent plus, parce que les proches s'en désintéressent forcément, puisque c'est que des emmerdes qu'il y a avec, avec ton piccolo. Et c'est ce que moi je suis... en fait dans cette année 2008, et quand je rentre dans ce trou et que je suis seul et que la vie m'emporte et me laisse avec Éthanol tout seul là, et ben en réalité j'ai plus qu'une seule relation, c'est Éthanol et moi, et du coup moi j'en suis conscient, je vois bien et là je réponds à tous les auditeurs qui nous répondent, à partir du moment où tu ne peux pas te passer de l'alcool, c'est que t'y es, t'es dedans, et je parle de besoin, et en fait il faut absolument que vous effaciez cette notion de temporalité. Il n'y a pas de temporalité chez l'alcoolique, c'est H24, et la seule chose qui est vraie, c'est le taux qui est le sien, le taux d'alcool dans le sang. Et dès qu'il est en chute, dès que le taux d'alcool chute dans son sang, il y a les crises de manque qui apparaissent. Et les crises de manque, j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard, parce que c'est quelque chose de très particulier. Mais du coup, ça me permet, moi, d'aller sur une transition. C'est que quand je me retrouve dans cette solitude et que je suis avec la pathologie qui, clairement, s'est installée, eh ben, je suis tellement seul et je perds tellement tout que la seule direction que je peux reprendre, c'est celle de ma mère. Parce qu'en fait, la seule personne qui nous abandonnera jamais sur cette planète...
C'est maman.
C'est maman.
Et oui.
Voilà. Et donc, du coup, je quitte le Sud. Et 2008, je retourne chez ma mère pour qu'elle prenne un petit peu soin de moi. Et c'est incroyable. Je me rappelle de ce jour où je prends le train de la gare de Montpellier. J'arrive gare de Lyon. Et en fait, j'ai pas envie que ma mère me voie alcoolisée. Bon, je le suis parce que de toute façon, je le suis tout le temps et que j'ai un taux d'alcool dans le sang qui est tout le temps important. Et comme je suis alcoolique et que je vais de toute façon aller vers une crise de manque, si je bois pas, eh ben en fait, je me retrouve dans un paradoxe de fou. C'est que je veux que ma mère, elle me regarde en étant fière de moi.
Oui, normal.
Normal. Et la réalité, c'est que je bois pas pendant le voyage, en fait, Montpellier-Paris. Alors, je bois pas, tout est relatif, hein, mais je bois pas trop en tout cas, et je veux pas arriver dans un état qui est pas bon. En plus, j'ai toujours eu dans mon alcoolisme, et après je te parlerai de ça, j'ai toujours eu une forme de discrétion. Et en fait, je suis arrivé et je pose mes sacs dans l'entrée de la maison familiale de mon enfance, là, parce que mes parents ont jamais changé d'adresse. Et ma mère, avec un grand sourire, elle est contente de voir son fils. Elle sait que c'est pas rose en bas, là, dans le sud. Et elle me dit, est-ce que je te sers une bonne soupe ? Et on est en hiver, il fait froid. Je regarde ma mère et vous savez, c'est le genre de question où, en fait, il n'y a même pas de réponse. C'est-à-dire que, mais bien sûr que je vais manger de ta soupe. En plus, ma mère, elle fait une soupe. Je vous laisse l'imaginer à votre
j'imagine,
goût.
J'imagine. J'ai l'odeur.
Ouais, c'est ça.
On a tous
notre soupe là à la maison.
La petite Madeleine de Proust, la soupe de la maison. Moi, ouais, c'était fait par ma grand-mère.
Voilà. Bah écoute, là, c'est ma mère qui me propose ça. Et je lui dis oui. Et la réalité, c'est que quand je lui dis oui, j'ai répondu trop vite. Et surtout... J'ai pas anticipé qu'elle me servirait la soupe dans une assiette creuse avec une cuillère. Et la vérité, c'est que tu penses bien que dans mon rythme dans le sud, mais jamais je mange de soupe.
Et, oui.
Et la réalité, c'est que au moment où je m'installe à table, j'ai un début de crise de manque. Et c'est-à-dire que j'ai des tremblements qu'on maîtrise pas quand on est alcoolique.
Qui commence à venir là.
Ouais, et j'ai la goutte, la sueur, j'ai cette crise qui commence à monter. Et la réalité, c'est que je prends, et là j'espère que les auditeurs arriveront à imager la scène, mais en fait je plonge ma cuillère dans l'assiette creuse, je vois la soupe, je la sens, elle va être trop bonne. Et au moment où je lève la cuillère, mais juste je quitte la surface de la soupe au niveau de l'assiette, et en fait je tremble tellement que tout ce qui est dans la cuillère retombe dans l'assiette. Et la réalité, c'est que je suis incapable de monter la soupe à ma bouche avec la cuillère. Et en fait, j'ai trop honte, en fait. Et là, je le dis avec le sourire, mais en réalité, vous ne le voyez pas, mais ça, c'est en train de me piquer à l'intérieur. Mais en fait, je sais que Ethanol m'a, je sais qu'Ethanol m'a gagné. Et je suis dans la défaite. Là, je suis emporté. Et j'ai tellement honte que je regarde ma mère en lui disant un truc mytho, en fait. Je dois la regarder en lui disant, bah écoute, en fait, j'ai pas faim. Mm. Ouais, je la mangerai plus tard.
Ouais.
Et la réalité, c'est que je crevais la dalle, j'avais faim. Et je n'avais pas bouffé sans doute depuis un moment, parce qu'en plus, quand tu es alcoolique, en fait, tu te nourris liquide et tu ne manges pas. Et donc, j'avais un peu la dalle. Et la réalité, c'est que cette soupe, je vais la manger, mais je vais la manger froide et je vais la boire comme un cochon dans l'assiette, comme si c'était dans un bol.
D'accord.
Et je sais, moi, que je suis dans un monde qui a changé. Et je n'ai jamais été dans le déni par rapport à ma pathologie, par rapport à mon problème, mais... Là, dans ma tête, il se passe un truc qui est fort. C'est que je sais que j'ai perdu.
C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu ressens? Tu te rends compte de la situation ou tu n'en as pas très envie? Tu t'en rends compte quand même, mais tu te dis demain, ça ira mieux. Comment ça se passe?
Ah, tu me régales, Mel. Est-ce que j'ai envie? Ben non, j'ai pas du tout envie. Personne n'a envie de ça. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de l'émission qu'on fait. C'est que je présente moi un mec ou une nana qui aurait envie de vivre ça. Et en fait, c'est ce que vivent les alcooliques. Et en fait, ça, personne ne veut le vivre. Et ça, moi, j'ai pas envie de le vivre. Au contraire, je réalise que je suis en train de vivre quelque chose dont personne n'a envie. Donc je suis en train de tout perdre et en plus je perds le contrôle de ma personne. Mmh. Et là tu te regardes dans la glace et tu peux pas te mentir. Les gens ils se mentent pas. Hein. Tu peux pas te mentir quand t'es faible et que t'es pas capable de faire quelque chose parce que t'es atteint. Ben tu réalises l'ampleur que ça prend. Mais ça c'est que le début de ce que je suis parce que on est en 2008. Et 2008, c'est juste
c'est
le début
juste le
du tunnel.
C'est juste le début, en fait.
Voilà.
C'est la descente aux enfers.
C'est la descente aux enfers. Mmh. Mais quelque part, c'est la porte des enfers, ça. Et du coup, cet alcoolisme qui est le mien, dans la continuité de cette soirée, alors cette soirée, elle est marquée par ça, mais ce soir-là, j'ai de l'alcool dans mon sac parce que je prépare, et c'est ça aussi une des grosses forces de tous les toxicomanes et des alcooliques, c'est que de toute façon, tu as ton stock pour pallier à cette crise parce que cette crise, c'est la misère. Et du coup, j'ai de l'alcool avec moi.
Tu te caches pour boire, du coup.
Ouais,
c'est
bien
ça,
sûr.
C'est ce que je voulais en venir à ça. Du coup, il y a un buffet d'alcool, tu m'as raconté un peu cette histoire aussi avec le buffet d'alcool.
Ouais.
Chez tes parents,
ouais,
tu vas prendre bouchon par bouchon pouvoir avoir ton taux.
Eh ben oui, ben du coup t'as raconté à peu près l'histoire là, et effectivement, donc du coup j'ai de l'alcool tout le temps avec moi, et dans un premier temps, quand je suis chez mes parents, en fait je sors, je vais dans une épicerie ou dans un magasin et je fais mes stocks, voilà. Sauf que comme l'engrenage est de plus en plus important, les consommations grandissent. Il faut savoir et il faut dire aux auditeurs que une des caractéristiques de la consommation d'alcool en termes de dépendance, c'est que de toute façon, on consomme toujours plus. C'est-à-dire que si on imaginait un cycle de répétition et de retour au produit, à chaque fois que le taux d'alcool diminue, quand on reprend de l'alcool, il augmente. Alors, il augmente pas de, je sais pas moi, on va parler de 5 grammes d'alcool englouti. Eh ben, on va pas la fois d'après, une fois qu'on est descendu à son taux, on va pas parler de 6 grammes, puis 7, puis 8, puis 10, puis après, tu bois 200 grammes. Non, c'est infime. Donc, je pourrais presque dire que c'est un nombre de gorgées, voilà, en termes d'éthanol. Mais en fait, on prend toujours plus. Et du coup, tu as besoin de stocks qui sont toujours de plus en plus importants. Et je me suis retrouvé effectivement dans des situations où malgré une excellente gestion de stock, ben, y a un moment où tu es en manque de stock. Et ce que je t'ai raconté comme anecdote, je vais vous la raconter parce que j'en rigole, mais il faut la prendre au sérieux parce que c'est ça que font nos auditeurs qui sont dans le mal ou les proches que vous avez qui sont dans le mal. Mais la réalité, c'est que une fois que j'avais consommé mon stock, Et la crise de manque, elle peut pas arriver. Donc, qu'est-ce que tu fais en bon gestionnaire? T'as repéré là où tu pouvais aller prendre ton toxique. Et chez mes parents, et là, c'est pareil, il faut que les auditeurs ouvrent un petit peu leur imagination, mais c'est pas très compliqué. C'est les vieilles grosses commodes qu'on a chez nos parents à l'ancienne, là, où t'as une surface au sol qui fait 2 mètres carrés, là, puisque la commode, elle fait 2 mètres
le
sur 1.
Le gros buffet, le gros buffet du salon.
Et en fait, mon père, amateur d'alcool, bien sûr, les chiens font pas des chats, avait, je sais pas, peut-être 100-150 bouteilles là posées à la verticale, des alcools forts avec bouchons, et elles étaient toutes rangées au fond de ce buffet. Et la réalité, c'est que dans mes étapes, et c'est une façon d'avancer dans mon alcoolisme pour les auditeurs, mais c'est qu'en réalité, j'allais, et pour que ça se voit pas, donc pour me cacher, je consommais. J'ouvrais la bouteille, je consommais une toute petite gorgée, je remettais le bouchon. Et je faisais peut-être ça dans 3-4 bouteilles, ce qui me faisait l'équivalent d'un verre. Et j'y retournais dans la soirée, je refaisais ça, mais dans 4-5 bouteilles différentes. Puis des autres, puis des autres, puis des autres.
Ça se voyait pas.
Ça se voyait pas. Et ça, c'était bien caché. Et la réalité, pour cette petite anecdote, c'est que quand même, en fait, j'avais, avec le temps... je suis retourné dans le sud, je suis revenu. Mais la réalité, c'est que entre la première fois où j'ai fait ça et à un moment X dont j'ai perdu forcément le détail, mais la réalité, c'est que j'avais sifflé les 2/3 de chaque bouteille quasiment sans que personne s'en rende compte. Et quand même, à un moment, mon père sur des trucs. Mais j'étais stratégique. En plus, je prenais des trucs que mon père n'ouvrait jamais. Sauf que quand il avait une bouteille pleine d'un alcool qu'il avait ramené du Chili, de je sais pas de quoi, de jus, de fruits, de qu'on connaît même pas, tu vois. Et ben, quand je tombais là-dessus, c'était dégueulasse, mais c'était de l'éthanol.
Okay.
Et je buvais ça. Et sauf que mon père, le jour où il rencontre un Chilien à la maison et qu'il veut servir la bouteille, parce qu'il sait qu'il l'a, il connaît très bien sa cave, il sort la bouteille et en fait, elle est aux 2/3 vide.
D'accord.
Et là, bon, on sait qui c'est en fait. Et du coup, ça me permet d'apporter une transition. Et je crois que tu te demandais un petit peu à un moment les formes d'alcool.
Oui, c'est ça, parce que je sais que tu m'avais parlé un peu d'alcool au féminin, au masculin,
ouais.
Quand t'es un homme, quand t'es une femme. Et toi, t'avais quel alcool du coup? C'était quoi ton comportement d'alcoolique?
Ouais, alors là, ça, c'est une question qui est riche pour nos auditeurs. Et en fait, il faut prendre un petit pas de recul par rapport à ce dont on est en train de parler. Et il faut imaginer que on est en train de parler d'une personne qui est alcoolo-dépendante, c'est-à-dire qui, pour agir au quotidien, dépend du taux d'alcool qu'elle a dans le sang, et pour faire n'importe quelle action, elle a besoin d'avoir son taux d'alcool. Donc, très concrètement, une personne, elle va être... Pour pouvoir agir, elle va boire. Et la façon de boire va déterminer une forme d'alcoolisme.
Okay.
Mais le résultat est toujours le même. C'est que, de toute façon, tu vas à la bouteille et t'absorbes de l'éthanol.
C'est juste le comportement qui change et la façon de le faire.
C'est la façon de le faire. Après, le comportement, c'est l'effet de l'alcool.
D'accord.
Et c'est ça qui vient déranger l'autre, en général. Par contre, l'absorption d'alcool, il y a 4 manières de le faire. Et moi, je donne ces 4 manières de le faire de manière très, très vulgarisée, très simple, très imagée. Mais elle doit permettre aux gens qui nous écoutent, aux gens que ça intéresse, d'identifier ça pour aider son proche.
Tout à fait.
C'est que il y a l'alcool masculin au masculin. C'est-à-dire, en gros, c'est le bonhomme qui a une grosse voix, qui est plus costaud que tous les autres. Il est dans le bar et il montre à tout le monde qu'il en est assez... 20 verres de whisky et qu'il est encore debout. Le mec, il tient l'alcool, c'est un bonhomme, il est plein de testostérone et il le montre à tout le monde. Ça c'est celui qui est au pilier de bar. On le connaît, on sait qu'il picole, mais il est dans le déni en général et il n'est pas alcoolique. Il est là, il est avec ses copains, il partage. Et en réalité, lui, il est dans le dur. Ensuite, on a l'alcool qui est complètement... Donc on a la même situation, sauf que là, c'est une femme qui picole. Alors, c'est plus rare, heureusement, mais ne nous trompons pas, c'est comme tout, l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est en train de se faire doucement. Et aujourd'hui, quand on rentre dans un bar, c'est pas rare de voir une femme qui est en train de crier aux abois et qu'elle est fière d'avoir bu 10 pastis.
Oui, et qu'elle couche tout le monde et qu'elle tient.
Voilà,
oui.
Ça,
oui,
c'est l'alcool féminin au masculin.
Oui.
Ensuite, je vais parler de l'alcool au féminin au masculin. Et c'est-à-dire, là, on boit des alcools féminin au féminin, on boit de l'alcool léger. En gros, on ne boit pas de l'alcool. Je bois un énorme jus de fruits avec un bouchon de whisky. Mmh. Mais par contre, le jus de fruits tout seul, ça ne marche pas. Et le petit bouchon de whisky qu'on a mis dans son jus d'orange, c'est rien, parce que c'est juste un bouchon. Et là, je glisse que l'alcoolisme, l'alcoolodépendance, il n'y a pas de lien avec la quantité d'alcool absorbée. Mmh. Voilà, c'est une question de taux dans le sang qui permet de faire où soit on est en crise, soit on on peut agir. Du coup, je finis par l'alcool qui était le mien, c'est-à-dire un alcool masculin, parce que je suis un homme, et je consommais au féminin. Au féminin, et là on parle de comportement et de façon de consommer, c'est que je me cachais, j'étais dans la honte et je voulais pas que les gens le voient.
Dans ta solitude, tu étais donc un homme qui buvait au féminin, qui avait un alcool au féminin.
Et en fait, la solitude, puisque tout s'équilibre, ma solitude, ma grande force, c'était d'être solitaire, d'être seul, parce qu'au moins je pouvais consommer sans avoir honte dans le regard des gens.
Oui, c'est ça.
Mais finalement, cette solitude a servi mon alcoolisme. Et forcément, m'a tué de pied en pied, puisqu'en fait, comme j'avais une vie de solitaire, seul, que j'avais plus de famille et que j'avais plus rien, ben en fait, je suis vraiment devenu le mec invisible. C'est-à-dire celui que personne ne voit, parce que de toute façon, il est caché.
Ouais.
Il se cache parce qu'il n'a pas envie que les gens le voient. Et en plus, contrairement à ce que les auditeurs doivent percevoir de moi, je suis une vraie pipelette aujourd'hui, sans doute parce que j'ai tellement fermé ma bouche, pour être poli, pendant des années et que je n'ai pas dit ce que je vivais, ce que je ressentais, qu'aujourd'hui, il y a tout ça qui sort. Mais la réalité, c'est que je consommais toujours, toujours en discrétion et je ne voulais surtout pas être alcoolisé aux yeux des gens.
Voilà. Oui, c'est ce que disait un peu le monsieur au dernier micro-trottoir, on ne le reconnaît pas, même dans notre famille.
Ouais, et je vais rebondir quand même sur ton micro-trottoir parce que il y a un moment où c'est le cœur de ta question, est-ce que ça se voit quand on est alcoolique? Mais oui, ça se voit. Et quand moi, je vois un alcoolique, je le vois arriver gros comme un bus au milieu de la route, où je le vois, je le vois parce que quand on est observateur et qu'on fait attention à l'état des gens, l'alcool, ça se voit, ça se porte et ça se sent. Et tout... Il y a plein de choses, il y a plein d'indicateurs. Et ça, malheureusement, c'est ma triste expérience face à l'alcoolisme. Et surtout...
Qui te permet de faire ça.
C'est ma riche expérience sur le chemin de la résilience qui me permet de voir ça.
Mmh, voilà. C'est vrai.
Dans le comportement ou sur le physique des gens.
Je te demande, Serge, avant chaque émission, de choisir une chanson quand on débrief tous les deux pour pouvoir l'écouter.
Ouais.
Et je te laisse l'annoncer.
Eh ben, écoute, j'ai l'impression que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, j'ai...
T'as envie d'écouter quoi ?
J'ai pas de regrets, mais quand même, j'aurais aimé avoir quelques pouvoirs pour ne pas vivre ce que j'ai vécu. Je regrette rien de mon histoire, je regrette rien de ce que je suis, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Et par contre, si j'avais pu changer quelques trucs, j'aurais aimé avoir le pouvoir de Hiro Nakamura, de Soprano. Et je pense que ma vie aurait été différente, mais je ne sais pas si elle aurait été meilleure. Voilà. Et celle-là, vraiment, je vous la dédicace. Écoutez les paroles, faites attention à ce qui est dit, et peut-être qu'il serait temps de prendre soin de nous. Voilà.
J'aurais
aimé voyager à travers le temps.
C'est pas grave. T'inquiète.
Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'avais su le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown, pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York, pour déclencher à 7h, une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, débrancher le transport de DF avant que Zia et Puna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. 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 J'aurais aimé voyager à travers le temps. Mais on ne peut vivre que le présent.
Alors, vraiment, zéro regret ?
Écoute, moi, le regret, je crois que c'est un mot qui, fait pas partie de mon vocabulaire. En réalité, si on a des regrets, ça veut dire qu'on a fait des choses et on les a faites pour... On les a faites volontairement, on a agi avec en conscience. Et donc après, on peut avoir des regrets. Moi, j'ai des regrets quand je fais quelque chose et que je me dis « Merde, j'aurais pas dû le faire ». Là, j'ai été malade. Comment tu veux que je sois, comment tu veux que je regrette de tomber malade ? Est-ce qu'on va regarder un mec qui a le cancer en lui disant « Ah, tu regrettes d'avoir eu le cancer ?» Ça dépend comment on pose la question, mais je crois qu'à un moment, il ne faut pas être maladroit. Et moi, est-ce que j'ai des regrets par rapport à qui je suis, ce que j'ai fait ? Non, aucun. Et en fait, je vais c'est ça que je veux que les auditeurs ils entendent, c'est que dans l'addiction, on y tombe pour des raisons aujourd'hui qui sont un petit peu floues. Pourquoi moi j'y tombe et toi t'y tombes pas, et pourquoi lui il tomberait pas dedans, et ça serait bien si lui il tombait dedans. J'ai pas envie de polémiquer là avec des gens qui sont insupportables dans notre planète là, et on se dit mais lui il faut qu'il dégage. Et ben en fait, je suis comme tout le monde, et tout à chacun, on a notre montagne devant nous. Et il y a un moment où cette montagne, quelle qu'elle soit, quelle que soit ta montagne devant toi, il va falloir que tu la surmontes. Et pour la surmonter, seul, on n'est rien. Donc, il faut que les proches soient proches des alcooliques. Il faut que notre système de soins se perfectionne. Il faut absolument que les gens entendent que c'est une pathologie et que personne, je ne connais pas un mec, moi, qui a la main dans le feu et qui est en train de souffrir et qui n'a pas envie de retirer sa main. Il faut enlever les mots d'envie, de plaisir ou de je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose dans lequel on glisse et dans lequel on tombe, on ne s'en aperçoit pas parce que je te garantis que jamais de ma vie je referai ce combat et jamais de ma vie je retournerai dans les méandres qui ont été mon quotidien pendant les 20 dernières années. Parce que après, il faut se reconstruire et ça, ce n'est pas simple. Il y a un truc qu'il faut donner aux auditeurs, c'est que la règle d'or, c'est 10 pas en avant, 9 en arrière. À partir du moment où tu fais 10 pas en avant et 9 en arrière, n'oublie jamais que tu as fait un pas en avant, donc tu as avancé. Et après, mon patron depuis quelques années maintenant, c'est Chronos. Et bah, il faut du temps. Et l'addiction, c'est beaucoup de temps dans l'ombre, beaucoup de temps dans le noir, c'est beaucoup de difficultés. Mais à un moment, il faut réussir à voir la fin du tunnel. Et la fin du tunnel, elle est en fonction des gens et de ce qu'on va leur apporter. Elle peut être plus ou moins longue. Voilà.
On arrive au terme de notre émission.
Eh oui.
Et oui, ça passe vite, mais il y en aura d'autres derrière pour qu'on puisse encore pouvoir expliquer à tous nos auditeurs ce parcours-là. Merci Patrick.
Ben, merci
pour
Mel.
Pour tout ça, et pour puis, ton franc-parler, pour ce que tu peux divulguer. Et merci pour encore une fois ce beau partage, cette belle émission.
Ouais.
Je voudrais remercier Issa derrière en régie. Merci Issa.
Merci Issa.
Merci à Radio Escapade. J'ai pas dit les fréquences. Voilà, mais déjà vous pouvez aller sur internet sur radioescapade.org. Ça c'est déjà un bon début. Et puis vous cherchez dans votre voiture, l'onde radio qui va bien, celle de Radio Escapade. Et j'embrasse tous nos auditeurs. Je vous souhaite une belle journée. Et puis à bientôt.
Salut.
Ciao, ciao.